Nous sommes dans une série depuis deux dimanches maintenant sur le service sauver pour servir. Et nous savons que c'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre de manière personnelle, de manière commune aussi au travers de l'Église. Nous avons parlé de servir Dieu avec sérieux et c'est important de commencer de parler du service que c'est quelque chose de sérieux. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Une parole particulière. Ce matin, on va insister sur l'aspect de se réjouir quand même. On va dans le psaume 100. Ce qui est impressionnant dans les psaumes, d'ailleurs vous remarquerez que ça fait un moment qu'on lit des textes dans les psaumes, c'est pas du tout calculé, mais quand on regarde dans les psaumes le service et le commandement que Dieu nous donne de servir, à chaque fois c'est accompagné de quelque chose de précis, et dans les psaumes en tout cas c'est souligné, servir avec crainte, et puis regardez dans le psaume 100, psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec quoi? Avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec de louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. On voit que la Bible insiste sur le fait de servir Dieu avec crainte, mais aussi de servir Dieu avec joie. Et c'est tellement important de le réaliser que quand on fait quelque chose pour Dieu, ce qui doit être dans notre vie, quels que soient les contextes, c'est de la joie malgré tout. La joie n'empêche pas la crainte. La joie n'empêche pas le respect que l'on doit au Seigneur. La joie est justement la conséquence du fait que le Seigneur est au milieu de nous, que le Seigneur est d'accord. Ça m'arrive parfois de regarder la lune, ça me fait penser, parce que je sais pas si c'est que j'ai vu ça quand j'étais enfant, au sourire du chat dans Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, à un moment donné, le chat, enfin on voit la lune et puis on s'aperçoit que c'est le sourire du chat. Mais bon, le chat, moi ça m'intéresse pas. C'est le sourire de Dieu qui m'intéresse. Et des fois, quand je vois la lune, je dis, c'est comme si Dieu est en train de sourire à ma vie. Parce qu'il est d'accord avec ce que je fais, ou parfois il ne l'est pas. D'accord? Et c'est important de réaliser que parfois on a besoin de se mettre devant le Seigneur pour qu'il nous montre ce qu'il ne fait pas sourire dans notre vie. Parfois, il a pleuré devant des villes, devant des personnes. Il a pleuré parce qu'ils étaient dans l'incrédulité, parce qu'ils n'ont pas reconnu qu'il les a visités. Mais le Seigneur nous appelle à lui rendre un service agréable, un service dans lequel on prend plaisir. Il prend plaisir à notre service et nous prenons plaisir à le servir. Vous remarquerez que dans les deux versets dont on a parlé la semaine dernière et ce verset de ce matin, servez avec crainte, servez avec joie, il y a un point commun, c'est quoi? Servez, ça veut pas dire surtout, ne sers tout seul dans ton coin. Servez, ça veut dire tous ensemble servez. Tous ensemble, offrez un service au Seigneur. Et c'est d'ailleurs la semaine prochaine ce qu'on partagera, de servir dans l'unité. Mais ce matin, donc, on reste dans ce cadre-là du service qui est agréable au Seigneur. Est-ce que quand vous servez le Seigneur, il y a une joie? Est-ce que servir Dieu, c'est un fardeau pesant, on tire la patte parce qu'il faut servir le Seigneur? Ou alors on est rempli de joie parce qu'on, malgré tout ce qu'on a pu faire avant, le Seigneur, il a effacé tout et il nous offre la grâce de le servir. Comme on a entendu, on a été créé pour de bonnes œuvres. Quelle grâce le Seigneur nous donne. Si justement, quand je sers le Seigneur, quand le pasteur me demande de faire quelque chose et que je sens que ça, il y a un combat dans mon cœur, mais c'est peut-être l'occasion de remettre sa vie en question, de dire Saint-Esprit, parle-moi, montre-moi peut-être dans mon cœur ce qui bloque, ce qui coince, ce qui grince, et viens mettre un peu d'huile dans tout ça pour que ça puisse bouger dans le bon fonctionnement de ce que tu veux que ça aille, Seigneur. Comment est-ce que Dieu rend agréable notre service? C'est ça la question. Comment est-ce que Dieu s'y prend pour qu'on ait la joie dans le service? Ben, il y a une joie déjà de s'aventurer dans la présence de Dieu. Il y a une joie de savoir, de connaître les vérités de la parole, de grandir dans sa connaissance. Et il y a une joie de savourer la constance et la fidélité de Dieu. C'est ce que nous voyons dans ce psaume-là et c'est les points que nous allons aborder ce matin. D'abord, la joie de s'aventurer dans la présence de Dieu. Pour servir Dieu, il faut d'abord entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est pas ce qui est marqué ? Venez avec allégresse dans sa présence. Et au verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges. Regardez dans ce psaume, étudiez-le, relisez-le à la maison, vous verrez les verbes qui sont employés. Ce sont des verbes d'action. Entrez, venir. Il y a un effort à faire, il y a un élan qui fait que d'abord on va vers le Seigneur. Dans notre cœur, c'est pas le fait de venir dans la maison seulement, mais c'est dans notre cœur surtout qu'on va vers le Seigneur, qu'on s'approche de Dieu. Approchez-vous de lui. Et c'est quoi la suite ? Et il s'approchera de vous. Combien de personnes pleurent parce que Dieu n'écoute pas leurs prières et dit « Dieu est indifférent, Dieu ne fait rien pour moi, Dieu ne s'approche pas de moi. » Oui, mais la Bible, elle dit « Approche-toi de lui d'abord. » Et les gens, là, ils le font pas par contre. Donc ça fonctionne pas. Mais quand on s'approche de lui, il s'approche de nous. Venez avec allégresse dans sa présence. Est-ce que vous avez de l'allégresse à venir dans la présence du Seigneur ? On a l'allégresse à se retrouver, à voir les visages des uns et des autres, à partager ensemble nos combats, nos victoires, etc. Mais ce qu'on a l'allégresse surtout par-dessus tout ça, c'est de voir le Seigneur Jésus derrière chaque visage. Vous êtes d'accord ? De voir ce que le Seigneur a été capable de faire pour les uns et pour les autres. Et ça nous encourage à tenir bon, ça nous encourage à rester fidèles, ça nous encourage à marcher d'un même cœur et d'une même âme. Venez avec allégresse dans sa présence. Ça nous arrive parfois de venir à l'église, peut-être on n'a pas le sourire parce qu'on a vécu un coup dur. C'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est de réaliser que de toute façon, même si je viens à l'église, que j'ai le visage triste parce que la semaine a été dure, dans la présence du Seigneur, je peux retrouver l'allégresse. Je peux trouver une joie surnaturelle, quelque chose, comme si Dieu ouvre son ciel un instant et que mon cœur se remplit de cette joie qui vient d'en haut. Ce qui réjouit le cœur du serviteur de Dieu, c'est la présence de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui ne peut remplacer la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est pas des chants bien huilés. La présence de Dieu, c'est pas des versets bien employés à certains moments précis. C'est pas ça la présence de Dieu. La présence de Dieu, ça ne se remplace pas. On peut faire tous ces artifices, on peut avoir une bonne prédication bien construite humainement, intelligemment, on peut avoir de bons chants bien représentés, mais ça ne remplace pas la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est pas difficile. La présence de Dieu, c'est ce que l'on a besoin, si on veut vraiment le servir de tout notre cœur. Il y a cet élan, venez, entrez. Il y a ce désir de dépasser là où on est aujourd'hui et d'aller encore plus loin. Comment est-ce que la présence de Dieu provoque la joie dans notre cœur ? Il y a un verset dans les psaumes, dans Job, qui nous l'explique. Alors qu'Adam fait sa prière à Dieu, vous savez que Job, il a eu des amis, un petit peu particuliers. Ils lui ont dit plein de choses théologiques super, super trop bien. Mais ils l'ont dit au mauvais moment. Et du coup, ça a paru comme des reproches qu'il lui faisait. Toi, Job, le juste, il est comme ceci, le juste, il est comme ça. Quand tu fais adresser ta prière au Seigneur, voilà, il va te donner l'innocence, etc. Mais ils l'ont dit alors que Job, il était innocent. Donc ça correspondait pas. Mais ça peut correspondre à quelqu'un, par contre, ce matin, c'est pour ça. C'est important de le lire quand même. Job 33, verset 26. Regardez, un homme qui va trouver la joie en s'approchant du Seigneur. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, Dieu lui est favorable. Il lui laisse voir sa face avec joie, et il lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. » La joie de venir devant le Seigneur et de retrouver l'innocence quand on a péché, quand on a fait le mal. Il y a une joie qui est là quand on se repent. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et c'est bon quand on va devant le Seigneur. La première chose, c'est de faire le point dans notre cœur et de dire « Seigneur, est-ce que tu es favorable ? Est-ce que il y a ton sourire dans le ciel qui est là pour moi ou pas ? Et si ce n'est pas le cas, Seigneur, je me repens. Je t'adresse ma prière et je sais que tu me seras favorable. » À quoi ça servirait de se souvenir du repas du Seigneur et puis de pas, la semaine, prendre en compte cela en disant « Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci de mal, j'ai fait cela qui n'était pas correct. Seigneur, pardonne-moi. Efface mon péché, rends-moi l'innocence. Je peux vous dire, quand quelqu'un qui est accusé, qui a un procès, qui a tout des problématiques, des avocats, la cour de justice, etc., le juge, et qui a toutes ces choses qui sont là, et qu'on lui dit, vous êtes innocent, monsieur, je peux vous dire qu'il y a une joie dans son cœur à cette personne. Et c'est ce que Dieu fait envers nous. Le pire de tout ça, c'est qu'on est coupable en plus. Mais Dieu nous efface le péché de celui qui se repent. Et c'est une joie fabuleuse. S'approcher de Dieu pour avoir un cœur purifié, c'est ce que Dieu nous demande. Qu'est-ce que vous diriez si vous allez au restaurant et que vous voyez le serveur qui a les mains toutes sales, pleines de cambouis et qui vous sert? Qu'est-ce que vous diriez? Je vais à un autre restaurant. Hein? Je paye pas, j'ai mangé peut-être des trucs, mais quand je vois les mains des serveurs, ça me donne pas envie de manger. Vous diriez ça? Vous auriez le droit de le dire. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu peut dire quand il voit nos cœurs souillés, qui veulent le servir? C'est la même chose. Dieu, il est saint, il mérite qu'on offre un service saint. Donc un cœur qui est sanctifié, qui est rendu saint par sa grâce. Et c'est ce que nous voulons offrir au Seigneur. La joie de retrouver l'innocence, la joie aussi d'être à la bonne place. Dans Luc au chapitre 19 et au verset 35, on voit un passage de l'évangile qui est particulier quand Jésus est entré dans Jérusalem sur un petit ânon. Vous savez ce que les gens ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont vu Jésus comme ça? Alors, je vous mets une colle là. Hosanna, Hosanna. C'est pour ça que j'ai choisi ces chants aussi ce matin, pour qu'on se mette déjà dans le bain. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Regardez Luc chapitre 19, verset 35. On va relire rapidement cette histoire, hein, très, très courtement. Luc 19, 35. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, donc les disciples, amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et ils firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens qui grommelaient du milieu de la foule, c'est moi qui le rajoute, dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples !» Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Amen. On raconte cette parabole de fait que quand les disciples sont allés chercher le petit ânon, ils en ont trouvé un avant qui était beaucoup, beaucoup plus joli. Un beau poil soyeux, un œil vif, de la vigueur, quelque chose de magnifique. Il avait presque l'impression d'être un beau cheval. Et les disciples ont dit, ah, on va prendre cet ânon-là parce que c'est lui qui est digne de recevoir le Seigneur Jésus. Et puis les disciples commencent à vouloir détacher l'ânon, et l'ânon, lui, il pensait qu'il était fait pour de hautes destinations, il voulait servir pour des rois. Il a dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces pêcheurs, ces gens du peuple? Moi, j'ai rien à faire avec eux, ça m'intéresse pas, moi, je suis fait pour un roi. Et ils commencent à se débattre, et ils commencent à s'entêter comme les ânes savent si bien le faire. Et les disciples, finalement, disent, bon, celui-là, il est un peu trop fougueux, on va prendre celui qui est à côté, qui est beaucoup plus docile. Et finalement, ils détachent l'ânon qui est docile, et ils commencent à le brosser le poil, ils commencent à mettre leurs vêtements sur lui, et ils disent, oui, celui-là, il va convenir à notre Seigneur, au roi, au Messie. Et il commence à l'amener à Jésus. Jésus va sur cet ânon et on rejoint le passage que l'on vient de lire. Il y a les cris, il y a les acclamations. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais l'ânon qui était attaché, qui n'avait pas voulu venir la première fois, il entend. Il entend qu'il y a des cris, il entend qu'il y a quelque chose qui se passe. Il se dit, ça y est, c'est mon heure de gloire. Ça y est, je vais pouvoir montrer combien je suis merveilleux. Alors il se débat dans tous les sens. Et à force de courage et de force, il arrive à se détacher de là où il est. Il arrive à l'endroit même où Jésus était avec l'ânon au tout début, en haut de la ville. Et puis là, il voit qu'il y a plein de choses par terre. Il y a toutes les vêtements, le tapis rouge qui avait été dressé pour Jésus avec l'ânon. Et il voit qu'il y a, par contre, il n'y a plus personne. Il arrive là et au lieu de recevoir les cris de gloire, d'honneur, il y a quelqu'un qui le voit et qui le prend pour un animal errant et avec un bâton il le chasse. Voilà la seule chose qui récolte cet âne. Et la question que je vous pose, avec beaucoup de respect, quelle âne préférez-vous être? Alors, je sais bien que vous n'êtes pas des ânes, hein. C'est pas ça le propos. Mais si je vous demandais de choisir entre les deux, lequel vous voudriez être? Celui qui veut en faire qu'à sa tête? Celui qui veut obtenir la gloire sans avoir la présence du Seigneur? Ou celui qui est docile? Mettez-vous un instant à la place, c'est pas facile. C'est pas facile de se mettre à la place d'un âne. Mais mettez-vous à la place d'un âne qui portait le Seigneur Jésus. Il arrive là, et qu'est-ce qu'il voit cet âne-là? Il voit des gens tout autour qui sont en train de lui faire une haie d'honneur. Il voit sur le chemin un tapis rouge qui lui est dressé avec les vêtements, les feuillages des gens. Il entend les acclamations. Il a dû se sentir vraiment important. Mais surtout, il a réalisé que tout ça, c'était seulement le résultat que Jésus, il était sur lui. Et le serviteur de Dieu, il a besoin de comprendre, le serviteur ou la servante de Dieu a besoin de comprendre que tout ce qu'il peut avoir comme honneur ne vient que d'une chose, de la présence de Dieu dans sa vie. C'est la présence de Dieu qui fait qu'on peut récolter des honneurs parfois ou pas. Et le plus important, c'est pas les honneurs que l'on récolte, le plus important, c'est de savoir que Jésus est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, si vous marchez dans mes enseignements, si vous faites ce que ma parole vous demande de faire. Est-ce que je suis à la place que Dieu veut? Parce que quand je suis à la place que Dieu veut, alors il y a une joie dans mon cœur. La joie de savoir que je suis en train de faire sourire le roi des rois. La bonne place, c'est simple, c'est d'être au service de Jésus, avec Jésus. Et je rajoute avec Jésus. Parce qu'on peut faire des choses pour Dieu, sans Dieu. Et ça ne fonctionne pas. On est frustré, on est fatigué, on fait que râler, mais on peut faire des choses pour Dieu, avec Dieu. Et là, il y a une paix, une joie surnaturelle qui nous est donnée. Et la joie aussi de donner gloire à Jésus. On va changer, plutôt que de parler des ânes et de se mettre à la place des ânes, on va se mettre à la place maintenant des disciples. Changer d'angle de vue et regarder au verset 7. Quand Jésus est en train d'approcher de Jérusalem, il descendait donc la montagne, et la multitude des disciples, il est dit qu'ils étaient saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix. C'est la manière dont ils ont exprimé leur joie en louant Dieu à haute voix. Pourquoi? Pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils se sont souvenus des miracles. Et s'il y a eu des lépreux qui ont été guéris, qui ne sont pas revenus voir le Seigneur Jésus, il y en a eu 9 en tout cas, il y avait des disciples qui avaient vu ça, et eux, ils étaient en train de louer Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient pu voir. Est-ce qu'il y a des miracles que vous avez vus? Est-ce qu'il y a des interventions de Dieu surnaturelles que vous avez vues? Est-ce que vous aimez louer le Seigneur parce que vous vous souvenez de tout ce que Dieu a fait pour vous? Ou pour quelqu'un qui est à côté de vous? Ou pour quelqu'un de votre famille? Vous souvenir de cela et louer Dieu. Ça crée une joie quand je me souviens de ce que le Seigneur fait pour moi. Et c'est important de se dire cela, je ne laisserai pas les pierres crier à ma place. Je veux dire au Seigneur ma louange. Je veux dire au Seigneur combien il est bon pour moi. La joie de s'aventurer dans la présence de Dieu, c'est tout ça que cela amène. Mais il y a aussi la joie de grandir dans la connaissance. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Premier verbe, c'était « entrer ». Deuxième verbe, c'est « sachez ». Grandissez dans la connaissance de Dieu. Et la bonne question qu'il faut se poser pour cela, c'est de dire « est-ce que le service que je fais pour Dieu, il m'éloigne ou il me rapproche de Dieu ?» Vous savez, parfois, on peut faire un service pour le Seigneur, donc je disais tout à l'heure, sans Dieu, mais quand on fait le bilan, on s'aperçoit que on est moins en paix qu'avant. On est plus dans les soucis, dans les tracas, et finalement on se dit, mais qu'est-ce que ça m'apporte de plus? Et c'est le moment de dire, Seigneur, sonde mon cœur, sonde moi et connais mes pensées, éprouve-moi, dis-moi si je suis sur le bon chemin, Seigneur. Est-ce que je recule ou est-ce que je fais des progrès? Est-ce que je grandis dans la connaissance de Dieu? Quand on est à sa place, quand on est là où le Seigneur nous veut, alors il y a des progrès naturels. Quand la plante, elle est dans la bonne terre, elle n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour grandir, ça grandit tout seul. Parce qu'elle est au bon endroit, là où Dieu veut la placer. Regardez le psaume 73. Ça peut arriver des moments où on remet les choses en question. Ça peut arriver des moments de doute. Dans le psaume 73, c'est Asaph qui avait ce temps un petit peu, il commençait à regarder autour de lui, se rendre compte qu'il y avait des injustices, et puis il y a quelque chose qu'il a fait qui a changé sa façon de voir. Psaume 73, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Là, c'est un petit peu comme si il essaye de se convaincre. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur toute la terre. C'est des Marseillais quoi, si vous voulez. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment et il dit « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? » Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Regardez jusqu'où il en était au point de douter. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Et regardez ce qu'il a fait cet homme, qui a commencé à regarder autour de lui et à dire « Oh, ceux qui sont contre Dieu, tout leur réussit, ils n'ont jamais de soucis, jamais de problèmes. » Alors que moi, tous les matins, je dis « Seigneur, rends-moi l'innocence, parce que je suis un pécheur. » Mais voilà ce qu'il a dit au verset 16. « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Quand on essaye de réfléchir avec notre cerveau humain à ça, eh bien, ça sera toujours très difficile pour nous. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Il y a un moment donné dans notre vie où on peut être dans le doute, où on peut être dans cette incompréhension de ce qui se passe, il y a des injustices, il y a beaucoup de choses, mais à un moment donné, il faut pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Il faut s'approcher, il faut venir dans la présence de Dieu, pas seulement pour avoir cette joie de l'innocence, mais aussi pour apprendre, pour recevoir de Dieu une révélation, pour recevoir de Dieu une connaissance qui va nous amener plus loin. Et cet homme, c'est ce qu'il a dit, je vous passe les détails, au verset 28, voilà ce qu'il résulte de ce moment dans la présence de Dieu. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ce qui va donner de la joie à mon cœur, c'est la présence de Dieu. Ce qui va donner de la joie à mon cœur, c'est de savoir que quels que soient les temps que je traverse, même si les méchants réussissent ou pas, j'ai un refuge dans le Seigneur. » Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne de la joie de savoir qu'en Dieu vous avez un refuge? C'est tellement bon. Cette semaine, on a vécu quelque chose de particulier. C'est dommage qu'elle soit pas là pour nous le dire, mais elle aura l'occasion de le faire. Mais une sœur de l'église est venue, vous savez qu'on a eu un temps de jeûne et prière, et elle est venue un soir. Ce qui était particulier, pour ceux qui étaient là, on n'a pas reconnu la sœur, parce qu'elle était en colère. Vous savez, il y a des choses qui peuvent nous mettre en colère, des injustices, des moments compliqués, c'était dans le travail, des injustices, et elle était en pétard, vraiment. Et j'ai dû même lui demander de se calmer, parce qu'elle en était à un point où elle disait toutes les méchancetés de la personne qui faisait des crasses au travail. Et je lui ai dit, mais on n'est pas venu déjà pour ça, on est venu pour louer le Seigneur. Et puis, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de glorifier la méchanceté de cette personne. Ça va loin, des fois, nos paroles, on ne se rend pas compte. Mais quand on insiste sur la méchanceté des gens, il vaut mieux se taire et dire la louange du Seigneur. Vous voyez là? Et elle a pris vraiment très bien. C'est-à-dire qu'elle s'est tue, elle s'est calmée, elle a demandé l'aide au Seigneur. Et j'avais préparé, sans connaître quoi que ce soit de cette situation, j'avais préparé cette pensée que Dieu nous donne l'onction face à nos adversaires. Et tous les versets qu'on a lus, ça correspondait exactement à sa situation. Tout ça pour dire qu'elle n'avait pas besoin, parce qu'elle nous avait dit « Je vais aller voir la personne, je vais lui faire passer un sale quart d'heure. Enfin, » vous savez, quand on est en colère, on peut dire plein de choses. Hein. On est tous pareils. Et puis finalement, à la fin de la prédication, et pendant le temps de prière, elle a dit « Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Je ne veux pas agir comme moi j'ai envie de faire. Quand je réfléchis, c'est difficile. Je ne sais pas comment ça va se passer. Seigneur, j'ai besoin de ton onction. » Et on a prié, on a dit « Seigneur, interviens, fais quelque chose. » Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans le travail, mais elle m'a dit le lendemain, c'est merveilleux, il y a eu du remue-ménage, il y a eu des choses qui bougent, c'est en train de changer au travail, le Seigneur est intervenu, j'ai même pas eu besoin de faire ce que je voulais faire au début, d'aller voir la personne comme je voulais le faire. Le Seigneur a fait. Qu'est-ce qui vaut mieux? Agir selon notre intelligence et peut-être risquer de blesser des gens, même si on a été blessé, hein, c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Ou demander au Seigneur son onction, sa révélation, la connaissance de ce qu'il faut faire. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois maudire mon ennemi ou est-ce que je dois le bénir? C'est simple, vous lisez la parole. Bénissez, ne maudissez pas. Et cette femme a béni son ennemi. Bénir son ennemi, ça ne veut pas dire, Seigneur, je te souhaite qu'il lui arrive que du bien. C'est pas ça, bénir. Si vous croyez que c'est ça, alors ne le faites pas, parce que c'est pas ce que ça veut dire. Bénir, ça veut dire, Seigneur, occupe-toi de cette personne pour qu'elle réalise qu'elle a besoin de faire du bien. Donc ça veut dire, parfois, mais c'est des épreuves. Mais ça, c'est le problème de Dieu, il sait comment s'y prendre. C'est pas notre problème à nous. Vous voyez la différence? Seigneur, je demande de bénir cette personne qui m'embête au travail, cette personne qui me fait ceci. Et le Seigneur est capable de faire cela. Si on choisit de venir dans sa présence, si on choisit de le connaître davantage, tu me feras connaître le sentier de la vie. David a dit ceci, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Est-ce que vous voulez d'abondantes joies? Ou est-ce que vous voulez quelques gouttelettes, quelques micro-gouttelettes de joie? Vous savez les petites pipettes qu'on a en chimie là? Est-ce que Dieu il vient comme ça pour nous donner quelque... Allez, approche-toi avec la gouttelette de joie que je vais... Non! Des joies abondantes! Oui, mais devant sa face. Comment est-ce que je fais pour marcher sur le sentier de vie, là où il y a d'abondantes joies, des délices éternels? C'est un psalmiste qui s'est posé la question. Hein. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est quoi la réponse? En se dirigeant d'après ta parole. Lisez la parole de Dieu et vous verrez qu'il y a une joie à connaître le Seigneur, à grandir dans la connaissance et à le servir ensuite avec encore plus de joie. Je finis avec cette pensée très rapidement. Verset 4 du psaume 100. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Il y a ce désir de s'approcher de Dieu, il a ce désir de savoir, de connaître ce que le Seigneur veut nous révéler dans sa présence. Il y a aussi la joie de savourer la fidélité et la constance de Dieu. Le mot fidélité dans ce passage, il peut être traduit aussi par constance. Et je trouve qu'on arrive bien à comprendre ce que c'est la constance, quelque chose qui est continuel, continu. La constance de Dieu, elle doit nous pousser à avoir cette joie pour le célébrer. Célébrer, bénissez l'Éternel. Quand nous servons Dieu, ça veut dire qu'on doit marcher avec lui. Ça veut dire que même si je traverse un temps difficile, je fais repasser dans mon cœur les bienfaits de l'Éternel. Et il y a quelque chose qui va se passer, hein, qui va faire en sorte qu'une joie va m'animer. Servir Dieu avec joie, ça veut dire se remémorer les choses du passé. Pas ressasser le passé. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ressasser le passé, c'est... Commence à réfléchir. Oui, telle personne m'a dit ça. Celui-ci ne m'a pas demandé pardon. Ça, c'est ressasser. Et ça, c'est pas bon. Et se remémorer les bienfaits de l'Éternel. Ça, c'est bon. Marie, repasser toutes ces choses dans son cœur. Toutes les promesses que Dieu avait faites. Toutes les choses qu'avaient dites les personnes qui étaient autour d'elle concernant Jésus, elle repassait ça parce que c'était bon pour elle. Et quand il y a eu des moments de doute, parce qu'on pense que comme toutes les femmes et tous les hommes, Marie, elle a eu des moments de doute, elle repassait ces choses dans son cœur. Et elle avait le courage de continuer à avancer. Quand on repasse, quand on se remémore les choses du passé, les bonnes choses du passé, alors... Ça nous permet de nous réjouir pour le futur. On sait que le Seigneur il est fidèle. On sait qu'il est constant. On sait qu'on peut compter, on peut savourer sa constance, savoir qu'il va agir. On ne sait pas de quelle manière il va nous surprendre. C'est un Dieu merveilleux. Y a-t-il rien d'étonnant de ma part, dit le Seigneur. Mais ça nous permet aussi de nous renforcer pour le présent. Quand je sais que le Seigneur va agir, alors je sais que dans le présent, je peux tenir bon. Je peux être solide. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Charondière. Il y en a qui l'ont connu peut-être en tant que pasteur à Montauban, qui s'est occupé aussi un petit peu de Moissac. Et d'ailleurs, il vous passe le bonjour. Hein. Mais il racontait cette histoire, je l'ai noté, qui m'a vraiment fait du bien. Lorsqu'il était professeur en Afrique, il avait l'habitude de faire une sieste entre midi et deux parce qu'il avait des programmes assez intensifs le matin et l'après-midi. Et avec la chaleur, donc il sentait que son corps, même s'il était plus jeune que maintenant, qu'il avait besoin de faire la sieste. Il m'a dit, maintenant je fais la sieste tout le temps, j'ai compris la leçon. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était pas... Quand il y avait d'autres choses qui prenaient la place, il n'hésitait pas à prendre ce moment de sieste pour s'en servir pour autre chose. Donc là, une dame lui avait demandé de faire des travaux dans sa maison. Il s'est dit, bon, le seul moment que j'ai le disponible, c'est entre midi et deux, donc je vais aller faire les travaux dans sa maison à ce moment-là. Donc le matin, il faisait les cours. Entre midi et deux, il mangeait très vite et puis il allait aider cette dame. Et puis l'après-midi, il refaisait les cours. Et il se retrouvait le soir exténué. Ça a duré pendant quelques temps comme ça. Si bien que il était épuisé. Il était vraiment épuisé. Et puis, il y a un pasteur qui lui demande de donner une pensée. Vous savez, il y avait des temps d'apprentissage pour des jeunes dames pour leur apprendre la couture, pour leur offrir un métier. Et il y avait une pensée qui était donnée tous les matins et on lui demande d'apporter une pensée. Alors lui, sans réfléchir, il avait l'envie de servir le Seigneur. Alors oui, pas de souci. Puis une fois qu'il a dit oui au pasteur et que le pasteur est parti, il s'est dit, mais quand c'est que je vais pouvoir préparer? J'ai pas de temps. Quand c'est que je vais pouvoir le faire? Je suis déjà claqué. Comment je vais pouvoir le faire? Et donc il a dit, tant pis, je me suis engagé. J'ai dit oui pour le service, je vais le faire. Et donc il fait sa journée normale, le matin les cours, le midi entre midi et deux les travaux, l'après-midi les cours, et le soir jusqu'à très tard il prépare sa prédication. Et le lendemain il est fatigué, il est encore plus fatigué qu'avant parce qu'il a passé du temps devant Dieu pour trouver une pensée. Il va apporter sa prédication à ces jeunes filles qui étaient vraiment assoiffées du Seigneur. Et alors qu'il est en train de prêcher, il nous a partagé cela, il a dit... Pendant que j'étais en train de prêcher, j'ai senti que le Seigneur était en train d'enlever toute ma fatigue. Et je me suis retrouvé à la fin de la prédication, c'est comme si j'avais dormi 12 heures d'affilée. J'étais en pleine forme, parce que j'avais accepté de servir, de mettre le service du Seigneur d'abord. Le Seigneur, il a pris le relais sur le reste. Et il m'a totalement restauré dans mes forces. Frères et sœurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être fatigué? Ne vous inquiétez pas, moi aussi, ça m'arrive encore. Mais est-ce que la fatigue est une excuse pour ne pas servir? Ça, non. La fatigue n'est pas une excuse. Parce que combien de fois le Seigneur m'a renouvelé alors que j'étais fatigué? Avant d'être pasteur, je vous parle en tant que chrétien, en tant que croyant, j'étais fatigué, j'avais des cours toute la semaine, j'étais épuisé par une semaine, c'était les classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs, des cours dans tous les sens, des cerveaux en ébullition. Le lendemain, j'avais un DS de 5 heures et le vendredi soir, il y avait la réunion de jeunesse. Mais j'allais à la réunion de jeunesse, j'étais fatigué, je traînais les bras, je traînais les pieds, me traînais pour y aller, mais j'y allais quand même. Et quand je ressortais, combien de fois je suis ressorti rempli de force, rempli de la grâce du Seigneur, parce qu'il avait parlé de manière précise, il y a des choses dans ma vie qui avaient été dévoilées. Combien de fois? Ça vaut la peine de pas laisser la fatigue nous empêcher de recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Je termine avec cette pensée. Et je profite en même temps pour vous passer les salutations de Claude Roussel, parce que ça concerne Claude Roussel, ce que je vais dire. Hier soir, nous étions à la célébration des 50 ans de mariage de Claude et Monique Roussel. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit surtout, merci d'avoir représenté moi ça, et puis transmet nos salutations, notre affection aux frères et sœurs. Voilà, donc je sais que vous le faites, hein, vous les embrassez aussi. Il y avait une rétrospective, quelque chose de vraiment très bien fait de leur vie, de leur l'œuvre que le Seigneur a fait au travers d'eux. Et donc ils ont parlé de l'œuvre en Normandie, des églises qui se sont ouvertes en Normandie sous leur ministère. Il y a eu le témoignage de nombreuses personnes qui racontaient donc les différentes étapes, les colos à Panassac, c'était au tout début quand il arrivait dans la région. Après, il y a eu le château de la Gautrie, il y en a beaucoup qui connaissent tout ce qui s'est passé. L'aventure que ça a été ce château, les colonies, la maison de retraite qui a commencé à cet endroit. Et puis les difficultés qui ont germé avec les mises aux normes. Et finalement, ça a donné la Méridienne, la maison de retraite la Méridienne, qui est vraiment quelque chose de très perfectionné, une grâce que Dieu a faite, cette maison de retraite qui a vraiment bâti sur des fondements chrétiens et qui amène, quelqu'un, un inconverti disait, que ça amène quelque chose de plus dans la vie des gens. Il n'arrivait pas à expliquer. Mais nous, on sait que c'est la présence de Dieu. Mais c'était un témoignage d'une personne pas convertie, qui disait, il y, Il y a quelque chose dans cette maison de retraite qui n'est pas comme les autres maisons de retraite. On sent, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est la présence de Dieu. Alors, je vous passe les détails, mais quelqu'un à la fin a lu une citation qui résumait un petit peu la vie de Monique et de Claude. Et je crois que cette citation, c'est une bonne conclusion pour nous aussi, parce que ça parle du service. C'est un homme, je crois que c'est un philosophe indien qui a dit ceci. J'ai dormi et j'ai rêvé que la vie n'était que joie. Je me suis réveillé et j'ai vu que la vie était service. J'ai servi et j'ai compris que le service est joie. Frères et sœurs, servons le Seigneur avec joie. Servons le Seigneur de tout notre cœur. Claude et Monique l'ont fait et le font encore jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, ils sont en train de venir au secours d'une église Mazamé, une de plus, parce que c'est le ministère que le Seigneur a confié à notre frère. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma sœur? Voilà la question qu'il faut que tu te poses. Et quand tu auras déterminé ce que Dieu attend de toi, sers-le avec joie, et le Seigneur te bénira. Merci Éternel. Merci pour ta bonté, merci pour ton secours. Merci parce que tu es le Dieu qui nous encourage, ce matin encore, à te servir. Nous sommes sauvés pour servir et nous voulons le faire avec joie. Nous voulons que ça soit quelque chose d'agréable, Seigneur. Pas de pesant, pas de lourd. Seigneur, si quelqu'un est en train de traîner la patte pour te servir, je te demande de lui donner le repos, d'éclairer son âme, de lui donner, Seigneur, cette vision juste de ton service. Seigneur éternel, oui, que la joie du Seigneur soit notre force alors que nous marchons devant toi. Seigneur, en tant que père, en tant que mari, en tant que, ouvrier dans ta maison, Seigneur, là où tu nous as placés, dans ta, en tant que voisin, en tant que Seigneur travailleur, collègue, Seigneur éternel, que nous soyons des serviteurs, des servantes utiles entre tes mains qui portons du fruit. Aide-nous, Seigneur, visite-nous par ton esprit et montre-nous, dévoile-nous quelle est ta volonté pour nous. Tu as créé nos vies, Seigneur, tu nous as créés pour de bonnes œuvres, nous l'avons entendu encore ce matin, pour de bonnes œuvres et nous voulons, Seigneur, entrer dans ces bonnes œuvres. Nous voulons pratiquer ces œuvres et croire que tu veux encore, au travers de tout cela, sauver le maximum de personnes. Merci Éternel. Amen.